Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, on continue notre parcours dans les doctrines essentielles. La semaine dernière, on était dans la doctrine de l'homme, l'origine de l'homme et le but de son existence. Et on est en train de parcourir, en quelque sorte, à travers les doctrines essentielles, aussi l'histoire de la rédemption, l'histoire du monde, l'histoire de l'univers, l'histoire de Dieu, en quelque sorte. Et ce matin, on va considérer ensemble un peu plus en détail la doctrine du péché. On a vu la création, mais qu'est-ce qui est arrivé après la création? Il y a eu la chute. Et ça, c'est un élément très important pour nous aider à comprendre l'ensemble des Écritures. Et ce matin, c'est correct, je vais continuer. Et ce matin, on va considérer la doctrine du péché, comme je le disais. La semaine dernière, on a vu que l'homme était créé à l'image de Dieu, que l'homme est le summum, si on peut dire, le couronnement de la création de Dieu. Après avoir créé toute chose, Dieu, le sixième jour, a décidé de créer l'homme, il l'a créé à son image. Et à l'origine, l'homme et la femme, tous les deux ont été créés à l'image de Dieu, ce qui les rend tous les deux égaux devant Dieu. Et on va voir à travers les Écritures que malgré leur égalité, ils vont jouer des rôles différents au sein du noyau familial et dans la société. Mais entre autres, ils ont une égalité devant Dieu étant tous les deux créés à l'image de Dieu. Mais à travers la chute, l'image de Dieu a été corrompue. Et à travers l'entrée du péché dans le monde, on voit que l'être humain a été complètement corrompu dans ses désirs, dans sa volonté, dans ses actions. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre justement comment l'image de Dieu a été corrompue, il faut considérer la doctrine du péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Comment le péché est venu? De nos jours, notre société est facilement prête à admettre que le mal existe, que dans le monde, il y a du mal, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a les gens... sur toute la terre, plusieurs agissent avec méchanceté. On voit les guerres, on voit les maladies, la méchanceté dont on est témoin. Tout le monde est prêt à admettre que le mal existe. Maintenant, lorsqu'on parle de péché, par exemple, ça vient introduire une notion un peu plus où les gens sont pas prêts à appeler le mal péché. Pourquoi? Pourquoi on n'est pas prêt à aller faire ce saut-là dans la pensée populaire, dans notre culture? Pourquoi on n'est pas prêt à dire que le mal, c'est péché? Mais en introduisant l'idée de péché, on introduit l'idée d'un standard qui est établi. Le mal en relation avec un être supérieur. Et la personne de Dieu, inévitablement, rentre en ligne de compte. Et puis, les gens ne sont pas prêts à appeler le mal péché. Mais pour plusieurs qui voient que l'univers ou que la Terre, l'humanité ne tourne pas rond, ils vont suggérer que c'est des problèmes dans la structure de la société, par exemple. On va dire qu'il y a des problèmes économiques et que le manque de partage des ressources est à l'origine du mal qui existe. Un possède plus, l'autre possède moins. Celui qui possède plus ne partage pas avec celui qui possède moins, et celui qui possède moins va essayer de posséder plus lui aussi ou de partager les ressources de celui qui possède plus, et puis le mal est impliqué dans ça. Donc, c'est une question économique. Si on partageait toutes les ressources également, on éliminerait le mal. D'autres vont suggérer que ça se trouve dans un système de justice qui est corrompu. Les raisons pourquoi il y a du mal dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de juste juge dans le monde. Il y a des juges qui sont corrompus, et à cause qu'il y a des jugements qui sont corrompus aussi, alors ça encourage les gens à faire le mal. La raison pourquoi il y a du mal dans le monde, c'est un système de justice corrompu. D'autres vont dire que c'est causé par de mauvaises politiques. On met en place des politiques qui sont injustes, encore une fois, et puis l'origine du mal vient du fait que les gens veulent avoir quelque chose de juste. D'autres vont dire que les problèmes vont naître dans les familles qui naissent dans la pauvreté, ou que le père va être un peu plus je vais dire comme ça, prendre le contrôle et peut-être mettre, faire du mal à ses enfants, à son épouse ou au sein de la famille, c'est là que le mal y naît. Et d'autres vont dire que c'est dû à un manque d'éducation. On n'est pas assez éduqué. Et à cause qu'on n'est pas assez éduqué, on va commettre des actions que si on était un peu plus éduqué, on ne les commettrait pas. Je pense que toutes ces réponses-là manifestent quand même que oui, ça peut provoquer du mal ou que ça donne une certaine liberté au mal de courir dans le monde. Mais je ne pense pas que c'est la réponse à l'origine du mal. L'origine du mal ne se trouve pas dans la faiblesse des structures de notre société, mais plutôt dans le fait que l'être humain est moralement mauvais par le fait que le péché est entré dans le monde. L'être humain, dans son essence, est mauvais, est fondamentalement mauvais. Et ça va à l'encontre de toutes sortes de philosophies qui ont été développées au 18e siècle, entre autres le siècle des Lumières. Jean-Jacques Rousseau a proposé que l'homme était fondamentalement bon et que c'est la société qui le corrompait. Je pense que la Bible nous enseigne autre chose. Elle nous enseigne que l'homme est fondamentalement mauvais à cause du péché et à cause de ça, ça entraîne le mal dans le monde et dans la société. Et le péché affecte toute la création, il affecte les êtres humains et leurs relations entre eux. Et aujourd'hui, on va chercher à comprendre un peu plus la réalité et les conséquences du péché en répondant à trois questions principales. Qu'est-ce que le péché? Quelle est son origine? Ensuite de ça, qu'est-ce que la nature pécheresse et sa relation avec la culpabilité devant Dieu? Et puis, c'est quoi la gravité du péché? Et qu'est-ce que le péché entraîne comme conséquence? Et avant d'aller un peu plus loin, on va prendre le temps de lire un passage qui est important pour nous aider à comprendre la doctrine du péché qui se trouve dans Genèse au chapitre 3. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Genèse au chapitre 3 et on va lire le chapitre au complet pour nous aider à comprendre comment le mal est entré dans le monde et qu'est-ce que le péché exactement. Alors, Genèse chapitre 3, verset 1. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On va se courber dans un mot de prière avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin pour apprendre de toi, Seigneur. Certainement, on est tous témoins que notre monde ne tourne pas rond. Les gens dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, commettent le mal et manifestent par leurs actions, Seigneur, qu'ils ne sont pas justes, qu'ils ne font pas le bien. Et Seigneur, tu nous montres dans ta parole d'où vient cela, d'où vient le mal. Tu nous apprends à voir le monde, avec tes lunettes, Seigneur. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as créé parfaitement dès le début, mais à cause de la chute d'Adam et Ève, Seigneur, cet univers a été entièrement corrompu. Et on veut, Seigneur, venir devant toi ce matin et apprendre de toi sur la nature du péché, parce que, Seigneur, c'est ça qui a coûté la vie de ton Fils. C'est ça qui l'a amené à venir sur cette terre, à venir jusqu'à la croix, donner sa vie en rançon pour nous. Ça prenait le Fils de Dieu qui meurt à la croix pour être puni à notre place pour nos péchés, pour qu'on puisse être en relation avec toi. Mais Seigneur, on est toujours, malgré la victoire que Christ a acquis pour nous, une victoire extraordinaire sur le péché, on est toujours en proie, Seigneur, à son influence, à la chair qui nous porte vers le péché. Et Seigneur, ce matin, aide-nous à mieux comprendre le péché et ses effets afin qu'on puisse lutter avec toi, par ton esprit, avec le péché dans nos vies, afin qu'on puisse vivre pour toi et te plaire davantage. C'est ma prière, Seigneur, et je te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, comme j'ai dit, on va répondre à trois questions. La première qu'on cherche à répondre, c'est qu'est-ce que le péché et quelle est son origine? Premièrement, la nature du péché. Comme je l'ai mentionné, notre culture n'a pas de difficulté à admettre l'existence du mal. Mais lorsqu'on parle de péché, par exemple, on a un problème. On a un problème à dire que lorsque quelqu'un dit un mensonge, il a péché. On a un problème lorsqu'on dit bien, quelqu'un a volé, il a péché. Certainement, il a mal fait, mais de dire que c'est péché, c'est un pas plus loin. Et lorsque nous appelons le mal péché, ça suggère qu'il y a un standard qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Le standard qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, c'est Dieu. C'est celui qui a créé l'univers. C'est celui qui était là avant le commencement et puis qui a créé toute chose et qui a établi toute chose. En créant l'univers, Dieu a décidé de mettre en place des règles pour que ça puisse fonctionner. Et le but de la création de l'univers, c'était la gloire de Dieu, que toute la création puisse rendre gloire à Dieu. Et il a mis en place des règles pour que ça puisse être bien géré et puis que les hommes puissent être heureux en relation avec Dieu. Mais lorsque on pense à Dieu, on pense à lui comme étant le standard, celui qui établit ce qui est bien, ce qui est mal. Les gens préfèrent de nos jours parler du mal plutôt que du péché parce qu'ils ne veulent pas admettre l'existence de Dieu ou plutôt l'existence d'un être qui aurait une autorité sur nos vies. Et c'est ce qu'on va voir en réalité aujourd'hui. À travers le chapitre 3 de la Genèse, on réalise que dès le commencement, l'homme n'a pas voulu avoir l'autorité de Dieu dans sa vie. Et ce que le péché nous montre, c'est qu'il nous cherche constamment à dévier notre trajectoire pour qu'on puisse dire « Non, moi, je sais ce que je veux. Je sais que ce que je veux pour moi est bon. Et ce que Dieu a pour moi, ce n'est pas bon. Pour être heureux, je dois faire ce que je veux. » Et c'est ça la tendance que le péché a à faire et que même l'influence de Satan, on va le voir, a sur nos vies. Mais si on devait définir le péché, en réalité, le péché, c'est le mal en relation avec Dieu. On définit le péché, enfin, c'est Wayne Grudem, un professeur de théologie, qui le résume ainsi, qui le définit ainsi. Le péché, c'est tout manquement de se conformer à la loi morale de Dieu en action, en attitude ou par nature. Dans cette définition-là, on voit que le péché, c'est de ne pas vouloir ou de ne pas se conformer à la loi divine, de ne pas se conformer aux standards que Dieu a établis. Et ça peut se manifester de plusieurs manières, soit par des attitudes, soit par des actions. Ça peut être dans nos pensées, dans notre cœur. Et c'est 1 Jean 3, 4 qui nous résume aussi qu'est-ce que c'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi dit quelque chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me mets en colère contre mon prochain parce qu'il a fait quelque chose de mal contre moi. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de manquer la cible du standard de Dieu. Et la transgression de la loi, le fait que je n'ai pas aimé mon prochain comme moi-même, comme Dieu me le demande, je manque la cible. Et je ne suis pas conforme au standard de Dieu. Et lorsque je manque la cible et que je ne me conforme pas au standard de Dieu, je pêche. C'est ça la définition du péché, la transgression de la loi de Dieu. Dieu place une cible. J'essaie de viser la cible du mieux que je peux, mais ça arrive bien souvent que je shoote bien à côté. Je suis en train de manquer à la loi divine. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est désobéir aux standards que Dieu a établis. Il se définit en relation avec Dieu et avec sa loi. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Il nous a créés pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse être heureux dans une relation intime, vivre une alliance avec lui. Et dans cette alliance-là que Dieu a voulu établir entre lui et les hommes, une alliance, c'est régi par une loi. Et Dieu a établi une loi et qui nous engage à l'aimer lui par-dessus tout, qui nous engage à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et lorsque nous péchons, on est en train de manquer la cible de la loi de Dieu, du standard de Dieu. Mais non seulement le péché est lié à des actions, à des pensées, à des attitudes, le péché aussi nous affecte dans nos cœurs. C'est dans un état corrompu qu'on est aujourd'hui. Et on va le voir plus en détail plus loin. On est dans un état corrompu par le péché à cause de la chute de nos premiers parents, d'Adam et Ève. Et en réalité, toutes nos actions, nos pensées, nos attitudes sont une manifestation de notre cœur qui est mauvais. Toutes ces choses sont des manifestations d'un cœur mauvais et corrompu. C'est Jésus lui-même, dans Marc 7, les versets 21 à 23, il dit « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Donc, nos mauvaises actions, ce que Jésus est en train de dire, c'est que nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes envers notre prochain ou même envers Dieu, notre rébellion envers Dieu vient d'un cœur qui est fondamentalement mauvais. Et comme on va le voir, le péché a affecté l'homme dans toute sa personne. Et c'est ça qui nous aide à mieux comprendre la nature du péché. Et ce qui nous aide à le comprendre aussi, c'est de comprendre son origine. Comment le péché est entré dans le monde? Le péché a eu un commencement dans l'histoire. Dieu n'a pas... C'est ce qui est important de voir ici, c'est qu'à la création, on l'a vu la semaine dernière, lorsqu'on a lu le récit de la création, à la fin du récit de la création, qu'est-ce que Dieu dit sur sa création? Il dit qu'il a vu, il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Donc, à l'origine, Dieu n'avait pas créé l'univers, Dieu n'avait pas créé le monde avec le péché à l'intérieur de l'univers. Mais ça, le péché a eu un commencement dans l'histoire de la création. Le péché n'a pas toujours existé. Certaines philosophies, par exemple, du monde gréco-romain, ont amené à croire que le mal a toujours existé. Et que le mal, il y a un certain, en quelque sorte, ces philosophies-là proposent un certain dualisme, qu'ils croient que le mal est éternel et que le bien aussi est éternel. C'est comme s'il y avait deux dieux, un dieu qui est bon puis un dieu qui est mauvais. Et ces deux dieux-là existent depuis toute éternité. Mais le Dieu mauvais est lié à la matière. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est matériel est corrompu. Mais tout ce qui est spirituel est bon. Et on a introduit ce dualisme-là en disant que ce combat-là entre le bien et le mal a toujours existé. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a juste Dieu qui est éternel. Le péché n'a pas toujours existé. Dieu a créé un univers, il a créé des anges, et à travers l'histoire de sa création, c'est là que le péché est entré dans le monde. Et Dieu avait fait un monde parfait. Si Dieu seul existait au commencement, le mal n'existait pas parce que Dieu est parfaitement bon. Et le péché est apparu. Donc, c'est au moment de la création que Dieu a déclaré que tout était bon. Mais il a donné un ordre à l'homme dans Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors Dieu crée l'univers, crée un jardin, place l'homme et la femme au milieu du jardin et dit, tu vois, je te donne tout ça pour toi. Il y a un arbre, par exemple, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas manger. Ça, c'est la loi que Dieu établit. Tu vas manifester que tu veux glorifier, que tu veux m'aimer, que tu vas m'aimer par-dessus tout en ne touchant pas à cet arbre-là. Et puis, plusieurs questions peuvent survenir dans nos esprits quand on regarde ça. La grande question, c'est pourquoi Dieu a mis cet arbre-là au milieu du jardin? Et si vous me posez la question, je vais vous le dire tout de suite, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Les Écritures ne me répondent pas à cette question-là. La seule chose que je peux donner comme réponse avec l'ensemble des Écritures, c'est que si le mal n'était pas entré dans le monde, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir manifester son amour envers des hommes, manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et si Dieu l'a permis comme ça, c'est parce que c'était la façon dont Dieu avait choisi de se glorifier. Ce n'est peut-être pas une réponse satisfaisante pour plusieurs, mais je pense que c'est la réponse qui vient des Écritures et qui, en quelque sorte, on doit se satisfaire avec cette réponse-là. Dieu ne nous donne pas toutes les réponses à nos questions. Mais il y a une chose qui est sûre. Ce que Dieu voulait, c'est une relation intime entre l'homme et lui, la femme et lui. L'homme et la femme devaient vivre une relation intime avec lui, devaient manifester qu'ils l'aimaient en obéissant à sa loi. Et ce qui est arrivé, c'est que, comme on l'a lu, on voit dans Genèse 3 la chute d'Adam et Ève. Et comment le péché est entré dans le monde? Bien, c'est Satan, sous la forme d'un serpent qui s'approche de la femme pour la séduire et puis ensuite la femme propose à son mari et le mari aussi, pas mieux qu'elle, continue dans cette voie. Et juste en regardant l'interaction entre Satan et la femme et comment l'homme a suivi tout ça, ça nous montre un peu comment le péché est sournois et comment Satan aussi est sournois dans sa façon de proposer. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a placé un doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-tu ça que Dieu a dit? Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis là, l'homme et la femme, innocents dans leur compréhension de leur relation avec Dieu, bien oui, c'est ça que Dieu a dit, c'est la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que Satan a fait? Il a remis en doute la parole de Dieu. Et le péché dans nos vies souvent apparaît lorsqu'on remet en doute la parole de Dieu. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas. Et là, Satan vient et dit, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit? Dieu a-tu réellement dit qu'il voulait que tu sois heureux? Dieu a-tu réellement dit qu'en touchant pas à ça, là, c'est comme ça que tu vas vivre une vie heureuse? Je pense que tu te trompes dans ce que Dieu a dit. Il sème le doute. Et la femme va répondre avec la parole de Dieu. Elle va dire, bon, Dieu a dit que ça. Et finalement, Satan va faire, en plus de semer le doute, va amener un mensonge. Il suggère qu'en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Dieu avait clairement dit, il va avoir une conséquence au péché. Si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir. Satan dit, pas ça. Pas ça qui va arriver. Dieu, il sait, lui. Il veut avoir une autorité sur vos vies. Il vous a dit ça. Mais en réalité, là, C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez égal à lui. Il ne veut pas que vous soyez comme que vous trouviez votre bonheur comme tout seul. Il veut que vous trouviez votre bonheur en lui. Mais si vous mangez de ça, là, vous allez être bien plus heureux. Vous n'aurez pas besoin de lui. C'est pas ça? Exactement ça que Satan a proposé. Je pense que c'est ça que Satan puis le monde, la chair, nous propose tous les jours. La parole de Dieu nous dit des choses. Il dit, c'est comme ça que tu vas être heureux. Tu veux être heureux? Agis de cette façon-là. Et puis Satan vient tout le temps dire, ah, c'est pas sûr. Tu sais, je pense, il me semble que ça me ferait bien plus du bien si je me laissais aller à mes désirs personnels. J'aurais pas besoin de lutter. Et ce que ça fait en sorte, c'est que Satan vient proposer l'orgueil dans le cœur de l'homme. Il dit, Dieu, tu n'auras pas l'autorité sur moi, ça va être moi qui vais avoir l'autorité sur ma propre vie. Adam et Ève, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont désobéir à Dieu. Ils vont croire au mensonge que le serpent a suggéré et vont manger. Les yeux s'ouvrent et là, ils commencent à avoir une connaissance qui n'était pas là auparavant. Mais en même temps, il y a une honte aussi qui s'installe. Ils apprennent qu'ils sont nus. Et là, il y a comme quelque chose qui allume, dit « Hey, c'est pas normal là, que je sois nu. Il faut que je m'habille. » Fait que là, ils vont faire des vêtements, tout ça. Non seulement ils ont appris des choses de plus, c'est vrai, ils étaient peut-être limités dans leur connaissance, peut-être qu'ils ont appris des choses de plus. Mais ce qui est arrivé, c'est que finalement, ils ont eu honte. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus coupables devant Dieu. Ils ont transgressé la loi de Dieu et se sont rendus coupables. Et en se rendant coupables, ils ont eu la honte. Et ça les a amenés finalement à être entièrement séparés de Dieu, du jardin, du paradis terrestre que Dieu avait créé pour eux. Le bonheur qui était là, finalement, ce bonheur-là disparaît complètement. La conséquence du péché, c'est la mort. Ils vont mourir. Et puis en plus de ça, ça ne sera pas facile de cultiver le sol. Ça ne sera pas facile de se multiplier comme Dieu avait demandé de le faire, tout ce que Dieu demande devient encore plus difficile pour eux à cause du péché. Ça, c'est l'origine du péché dans le monde. Quand l'homme a décidé de se rebeller contre Dieu et de décider par orgueil de dire « Non, Dieu, je veux pas son autorité dans ma vie, c'est moi qui vais être le boss de moi-même. C'est pas lui le king, c'est moi le king. » C'est ça que Satan a suggéré. Mais la chute d'Adam et Ève occupe pas... Ce n'est pas l'origine du mal en tant que tel. L'origine du mal prend sa naissance, en fait, chez Satan et ses anges. On l'a vu un peu lorsqu'on a vu la doctrine des anges. Un jour, Dieu a créé l'univers et dans cet univers-là, Dieu a créé des anges. Et on croit à travers certains passages de l'Ancien Testament que l'origine du mal, c'est Satan qui était un ange qui s'est enorgueilli et qui a voulu devenir comme Dieu lui-même. Et puis finalement, cet ange-là s'est rebellé contre Dieu. Il y en a d'autres anges qui l'ont suivi et se sont rebellés contre Dieu. Et à travers Satan, c'est à travers Satan que le péché entre dans le monde. Le péché de Satan, d'orgueil, Satan vient faire la même chose, le propose aux hommes. Et les hommes se rebellent contre Dieu. Il a entraîné Adam et Ève dans l'orgueil puis dans la rébellion. Fait que la chute d'Adam et Ève ont eu un effet désastreux sur toute la création. C'est ce qu'on voit après ça. Le reste de l'Ancien Testament. Après ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est juste, puis même du Nouveau Testament et de ce qu'on est témoin aujourd'hui dans le monde, c'est le mal de l'être humain. Le péché des hommes qui font à l'encontre, qui vont totalement à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour eux. Donc, ça a eu un effet désastreux sur la création. Et non seulement cela, tous les êtres humains maintenant naissent avec la culpabilité et la nature pécheresse. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est quoi la nature de cette culpabilité-là et qu'est-ce que c'est la nature pécheresse? Pourquoi le mal perdure? C'est parce que le mal s'est transmis de génération en génération depuis Adam et Ève. On commence avec l'aspect de la culpabilité. En péchant, Adam et Ève se sont rendus coupables devant Dieu. Et son jugement est tombé sur eux. Premièrement, sur la femme, on le voit dans Genèse 3:16. Ensuite, sur l'homme, qui lui aussi a eu le jugement, un jugement de Dieu qui a été prononcé sur lui. Et finalement, les deux ont été chassés du paradis terrestre, du jardin d'Éden. Donc, en se rendant coupable devant Dieu, il y a eu des conséquences, il y a eu un jugement de Dieu qui est tombé sur eux. Et ensuite, la mort est entrée dans le monde. Mais la réalité, c'est que souvent, on pense que on est pécheur et qu'on est coupable devant Dieu parce qu'on a commis des péchés. C'est vrai. Lorsqu'on pêche, on se rend coupable devant Dieu. Mais tous les descendants d'Adam et Ève sont coupables devant Dieu avant même qu'ils ont commis un péché. C'est ce qu'on voit dans Romains 5. On va le lire ensemble parce que depuis la chute, les êtres humains non seulement héritent d'une nature pécheresse, mais héritent aussi de la culpabilité du péché. Dans Romains 5, verset 12, on lit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Plus loin, au verset 18, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. » Donc, Paul parle ici au verset 12, on le voit, de la culpabilité en raison des actions. Il dit « La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Mais le verset 18 nous montre que ce n'est pas juste parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils sont nés d'Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Donc, ce que la Bible m'enseigne, c'est qu'à cause du péché d'Adam et Ève, eux se sont rendus coupables, mais toute leur descendance est coupable devant Dieu à cause de leur péché à eux. Ça veut dire, je nais dans le monde, je suis coupable. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est comme ça qu'on doit voir la nature du péché et comment le péché nous affecte. Le péché nous rend coupable devant Dieu dès aussitôt qu'on vient dans le monde. On est coupable devant Dieu parce qu'on est dans le péché. On va le voir plus loin, même David, le roi David le dit dans le psaume 51. Fait que tous sont coupables parce que par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et notre culpabilité est basée sur le péché d'Adam, qui était le représentant de la race humaine qui a été mise à l'épreuve dans le jardin. Et comme représentant de la race humaine, on est sous Adam. Et Adam, notre représentant, la culpabilité du péché est imputée à tous ses descendants. Et cela, ça peut sembler injuste. Dire, Seigneur, tu me rends coupable devant toi. Tu me juges coupable devant toi à cause que le premier homme a péché. Je vais vous amener un argument de l'autre côté. En Jésus-Christ, à cause de l'obéissance, c'est ce que Paul nous dit, à cause de l'obéissance d'un seul, un qui a été mis à l'épreuve, qui a été tenté puis qui n'a jamais péché, à cause de son obéissance à lui, Dieu peut nous justifier devant Dieu et nous donner la vie éternelle, nous pardonner de tous nos péchés et nous rendre justes alors qu'on est injuste. Ça, c'est injuste. Un homme parfait qui est jugé à notre place. Il a reçu la justice de Dieu sur lui. Il ne méritait pas. Mais maintenant, en Jésus-Christ, par son obéissance à lui, maintenant, je peux être réconcilié avec Dieu. Donc, je suis coupable devant Dieu à cause du premier Adam. Mais Dieu a envoyé dans le monde un deuxième Adam qui, par son obéissance maintenant, si je reste pas sous le premier Adam, mais que je me place sous le deuxième Adam, je deviens une nouvelle création et maintenant je suis juste. Je suis vu comme juste devant Dieu. Et comme Adam a été mis à l'épreuve dans le jardin d'Éden, Jésus, en venant sur la terre, a été mis à l'épreuve. Il a été tenté par le diable dans le désert. On connaît les récits. Tout au long de son ministère et même jusqu'à la fin, lorsque c'était le temps d'aller jusqu'à la croix, je pense que tout ce que Jésus désirait, ce n'était pas d'aller jusqu'à la croix. Et je pense qu'il a même été tenté dans le jardin peut-être d'abandonner tout ça. Mais Jésus, dans sa vie sur la terre, n'a jamais cédé à la tentation, a toujours répondu avec la parole de Dieu en plaçant sa foi dans son Père céleste qui l'a délivré et qui finalement l'a rendu juste, obéissant. Et maintenant, parce que Christ a pris sur lui le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, par la foi en lui, nos péchés sont pardonnés et on paraît juste devant Dieu. Donc Dieu a créé Adam qui a péché, il a envoyé un deuxième Adam qui est le premier-né de la création, comme nous dit 1 Colossiens 15, le premier d'une nouvelle création que lui n'a pas désobéi. Et par la foi en lui maintenant, on peut se placer sous lui et paraître juste devant Dieu. Alors, je pense que si on considère ça, on voit que Dieu gère les choses selon de qui tu es né. Si tu es né d'Adam, tu es coupable. Mais si tu es né en Jésus-Christ, tu es juste devant lui à cause de l'obéissance du deuxième Adam. Donc ça, c'est comment la culpabilité atteint tous les hommes. Et comment maintenant la justice, être juste devant Dieu, peut atteindre aussi les hommes lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Il y a la culpabilité et il y a la nature pécheresse. Deux éléments que le péché a entraîné. Il a entraîné la culpabilité, mais il a entraîné aussi la nature pécheresse. La nature pécheresse, c'est lorsque Adam a péché, fait en sorte que tous les êtres humains naissent avec un cœur mauvais. On a parlé du cœur mauvais de l'homme au tout début. Et maintenant, à cause de nos péchés, à cause du péché d'Adam et Ève, tous les êtres humains naissent avec une nature pécheresse. C'est David, le roi David, qui écrit le psaume 51 après son péché d'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il a écrit un psaume de repentance, et c'est le psaume 51, c'est ce psaume de repentance-là. Verset 7, il va dire « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc pour David, c'était clair pour lui. Quand je suis né dans le péché. J'étais déjà coupable. J'étais un pécheur. En naissant, j'allais commettre des actes mauvais. Dans le psaume 58:4, un peu plus loin, le psalmiste dit « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Aussitôt que nous naissons, on est affecté par une nature pécheresse. On est perverti, on est corrompu par nature. Et la nature pécheresse fait en sorte que naturellement, tout être humain est rebelle à Dieu. Éphésiens 2:3, Paul va dire, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Avant de connaître Christ, on était comme les autres, on était tout comme le monde. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et on était par nature, je veux souligner ce mot-là dans ce passage-là, par nature, on était des enfants de colère comme tout le monde. Si je connais Jésus-Christ aujourd'hui, puis si j'ai été justifié en Jésus-Christ, c'est certainement pas parce que j'étais un bon gars. C'est parce que Jésus a décidé de manifester sa grâce envers moi. Parce que par nature, j'étais un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous avec une nature pécheresse qui fait qu'on est des pécheurs, qu'on pêche. Et le fait qu'on ait hérité de la nature pécheresse fait en sorte que, par nature, on n'a rien de bon à présenter devant Dieu. Nos bonnes actions sont même mauvaises devant lui parce qu'ils ne sont pas faites pour sa gloire. Par nature, on est incapable d'obéir à la loi de Dieu. On a cette incapacité de le glorifier et d'accomplir les actions qui sont bonnes à ses yeux. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tous sont pécheurs devant lui. Ça, c'est la conséquence du péché. Le péché a entraîné la culpabilité et la nature pécheresse. Et nous naissons tous avec ces deux éléments-là, coupables devant Dieu et avec une nature pécheresse qui nous amène à pécher. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. C'est quoi la gravité? Comment le péché se manifeste? Premièrement, le péché, c'est quelque chose de grave parce qu'il a engendré la dépravation totale de l'être humain. La corruption du péché est universelle. Ça veut dire qu'elle atteint tous les hommes. Elle s'est transmise à tous les hommes de génération en génération, puis elle entraîne l'homme à se rebeller contre Dieu, on l'a vu. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis cette corruption-là fait en sorte que tous les êtres humains sont séparés de Dieu, ne peuvent pas entrer dans sa présence et sont corrompus dans tous les aspects de leur être, que ce soit physique, mental, dans leur volonté, dans leurs émotions ou même dans leur aspect spirituel, tout notre être est corrompu par le péché. On voit ça, entre autres, dans Jérémie 17:9. Jérémie dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Donc, le cœur de l'homme, tortueux, corrompu par le péché. Éphésiens 4:18. Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'intelligence, ne peuvent pas connaître Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par nature. Pourquoi? À cause que notre cœur est endurci. Nos yeux sont, on est aveuglés, on a l'intelligence obscurcie par, à cause du péché. Et puis Édith 3.3 va dire que nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, le péché a entraîné la dépravation totale qui fait en sorte que l'homme est corrompu dans toute sa nature, son cœur est corrompu et ça se manifeste dans ses actions. Mais ça va un petit peu plus loin. Cette corruption-là, cette dépravation totale-là va amener pour résultat l'incapacité totale de l'être humain à résoudre sa condition déchue. Impossible pour l'homme de résoudre cette condition déchue-là, cette corruption-là, sans une intervention divine. C'est possible de s'en sortir, mais c'est impossible de le faire par nature, naturellement. Ça prend l'intervention de Dieu, ça prend l'intervention de Dieu en Jésus-Christ pour venir nous délivrer de cette dépravation totale et de cette incapacité totale. À cause du péché, maintenant, on est incapable de faire le bien sans une intervention divine. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair, en nous, fait en sorte qu'on est ennemi de Dieu et ensuite de ça qu'on n'est pas capable de se soumettre à sa loi, on est incapable d'obéir à Dieu. Ça va même plus loin que ça. Sans une intervention divine, on n'est pas capable de croire en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Par nature, tout ce que l'Esprit de Dieu enseigne, je ne veux rien savoir de ça, parce que c'est une folie. Et ça arrive souvent, je vais le dire comme ça. J'ai connu le Seigneur quand j'étais en bas âge. Mais mon père me rappelait que dès que j'avais comme 2, 3, 4 ans, déjà il m'enseignait la parole de Dieu. Il dit, lorsque je te parlais de l'Évangile, je te parlais du péché, puis de la conséquence du péché, puis de ce que Christ a fait pour toi, il dit... Tu avais 3-4 ans, là, puis tu disais, même s'il était 6 heures le soir, je vais aller me coucher, je ne veux pas parler de ça. Dès mon jeune âge, je ne voulais pas en entendre parler de ça. Parle-moi pas de ça, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas entendre parler de Dieu. Je pense que je manifestais ce que j'étais par nature. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a attiré à lui, puis je l'ai connu dans mon jeune âge, à l'âge de 5 ans. Je peux dire aujourd'hui que d'aussi longtemps que je me rappelle, c'est ce moment-là qui a été le moment de ma conversion. Mais si je pense aux témoignages de mes parents ou des gens autour de moi, quand on parle de Dieu, de sa loi, du péché, de ce qu'il a accompli pour nous en Jésus-Christ, c'est une folie. Je connais un homme qui finalement s'est converti après 20 ans qu'on avait témoigné à cet homme-là. C'est un Michel. Je pense qu'il serait très à l'aise que je vous partage son témoignage, mais Michel est un... Mon père avait des épiceries, des supermarchés dans la région de Québec. Et puis, Michel était un boucher à un des épiceries de mon père. Et puis, début de 77, mon père se convertit, commence à partager l'Évangile avec Michel. Puis, Michel vient à l'église, à un moment donné, se convertit, en fait. Il vient au Seigneur, il fait profession de foi dans une soirée d'évangélisation, il avance en avant, tout ça. Mais il était en fréquentation avec une jeune femme qui allait se marier avec, puis elle voulait rien savoir. Fait que le lendemain, il a viré de bord, il avait avancé en avant, il avait fait profession de foi, mais finalement, non, il dit, moi, je tout ça, elle veut pas suivre, fait que je vais être avec elle. Puis pendant 20 ans de temps, moi, j'ai grandi avec lui, on travaillait ensemble, parlait de l'Évangile, tout ça. Il voulait rien savoir. Rien savoir. Pourquoi? L'Évangile, c'était une folie pour lui. Jusqu'à un certain moment donné, 20 ans plus tard, autour de 97, son père meurt était mourant d'un cancer. Et puis son père il dit à Michel, il dit, « J'ai peur sur son lit de mort. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? J'ai peur. » Michel, il réfléchit un peu. Gaétan, qui est mon père, il connaît, lui, comment faire pour pas qu'il ait peur. Là, tout ça. Fait qu'il s'en va voir mon père et dit, « Peux-tu m'écrire des versets pour que je puisse dire à mon père comment venir au Seigneur? » Parce que lui, il a peur. Là. pas chrétien, le gars, là. Pas encore, en tout cas. Et puis, mon père, il fait une feuille, il écrit des versets, il écrit son témoignage dessus, puis il dit, tiens, va partager ça à ton père. Puis, le père de Michel restait à Montmagny, on était à Québec. Il prend la route pour Montmagny. Et puis, pendant qu'il est dans l'auto, en descendant, j'ai connu Michel pendant mon jeune âge, puis pendant toute ma vie, partager l'Évangile avec lui. Puis son cœur était dur. Mais dans le temps, en s'en allant à Montmagny, Dieu a parlé à son cœur. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui a ouvert l'intelligence pour comprendre, pour enlever, pour arrêter de le faire voir, le message de l'Esprit de Dieu comme une folie, puis de l'accepter par la foi. Aujourd'hui, j'ai vu Michel l'année dernière, marche avec le Seigneur, il y a une paix dans son cœur et c'est évident. Il y a eu une transformation, il est né de nouveau. Son père est décédé dans la fin de semaine et puis il est revenu à l'épicerie le mardi matin. Et puis qu'est-ce qui était... Michel arrive, puis, tout heureux, son père est décédé, mais tout heureux. Il dit, Alexandre, j'ai quelque chose à te dire, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu avait ouvert son cœur. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. On est une incapacité totale à saisir les choses de Dieu sans une intervention divine. Et l'histoire de Michel, puis votre histoire, puis mon histoire, c'est juste l'histoire de Dieu qui nous rend capables de saisir sa grâce. Et la dépravation totale fait en sorte que les hommes n'ont pas la capacité de croire en Jésus. On voit ça dans Jean 6. Jésus dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et au verset 45, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Si on connaît le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu est intervenu dans nos vies pour nous faire voir que Christ était la solution à notre état de pécheur. 1 Corinthiens 12, 3, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de dire « Jésus est mon Seigneur ». C'est parce que Dieu est intervenu. Le péché aussi, pour résultat, on a vu que la dépravation totale, l'incapacité totale de faire le bien et de croire en Dieu, et finalement, il y a un résultat que Satan a une emprise sur l'être humain. Satan, il a le pouvoir sur ceux qui n'appartiennent pas à Christ. 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin à cause que Satan, à cause du péché, à cause que Satan a permis au mal, et l'homme et la femme en péchant ont permis au mal d'entrer dans le monde, Satan maintenant a une emprise sur le monde. Dépravation, c'est la corruption, c'est que rien, tout est mauvais, tout est dépravé, tout est détruit, là. C'est ça. Ouais. Satan entraîne les hommes à se rebeller contre Dieu et à accomplir les désirs de leur chair. On voit ça dans Éphésiens 2, entre autres. Et Satan rend aveugles les hommes à la vérité de l'Évangile. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan a aveuglé leur intelligence. Si les gens ne croient pas à l'Évangile, c'est parce que Satan aveugle l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le péché entraîne le jugement de Dieu et la condamnation éternelle sur tous les hommes. Le péché a entraîné la mort. Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort-là se manifeste dans une mort qui est physique. On va mourir un jour, on meurt tous à cause, c'est une conséquence du péché. Il y a une mort spirituelle qui est attachée à ça, une incapacité. La mort spirituelle, si je peux dire ce que je parlais d'incapacité totale, je pense que c'est dû à notre mort spirituelle. On était incapable de faire le bien, incapable d'accepter les choses de l'Esprit de Dieu à cause du jugement, à cause du péché. Et finalement, ça entraîne la mort éternelle. Une séparation d'avec Dieu éternel, loin de sa face, dans un jugement conscient qui dure éternellement, on l'appelle l'enfer, le lieu de souffrance pour ceux qui n'auront pas cru à l'Évangile. Oui. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est une bonne question. Madame Paradis demande si on meurt tous à cause du péché, comme je le mentionnais, mais aussi ça se peut qu'on ne meure pas parce que s'il vient l'enlèvement, on ne mourra pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis il y a Enoch et Élie qui sont montés au ciel. Bien, je pense que Dieu leur a permis de ne pas voir la mort à eux. Je pense que Dieu leur a fait une grâce spéciale de juste de pas voir la mort, mais de simplement monter au ciel. Pareil comme s'il y avait eu l'enlèvement. C'est ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est une grâce que Dieu leur a fait de ne pas voir la mort. Ouais. Et je pense que si, c'est ma compréhension des choses, s'il n'y avait pas eu le péché dans le monde, on aurait probablement tous terminé notre vie sur la terre d'une façon semblable. C'est qu'on n'aurait pas connu la mort. Peut-être qu'on n'aurait probablement pas vécu éternellement sur la terre. Si on n'avait pas vécu éternellement sur la terre, on aurait probablement monté au ciel de cette façon-là. C'est ma compréhension. C'est toutes des suppositions, là, parce qu'il n'y a rien de clair dans les Écritures, mais ma compréhension, c'est que la mort, on voit la mort, on connaît la mort physique à cause du péché. Si le péché n'avait pas été là, soit qu'on aurait vécu éternellement sur la terre, et si ce n'est pas le cas, bien, on aurait été enlevé à un certain moment donné au ciel. C'est ça. Ouais. J'aimerais terminer avec comment Dieu a manifesté sa grâce envers nous pour venir nous enlever la culpabilité du péché puis nous délivrer du péché. On va lire ensemble Romains 5, parce que finalement, la solution au problème du péché dans nos vies et à tout ça, c'est Jésus-Christ. Dans Romains 5, au verset 6, on lit « Car lorsque nous étions encore sans force, incapables de croire, incapables d'obéir à la loi de Dieu, on était sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, est mort pour nous. À peine mourrait-il pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est seulement par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ qu'on peut être délivré du pouvoir du péché, des effets du péché dans nos vies. Christ est venu sur la terre, alors qu'on était sans force, on était ennemis de Dieu, alors qu'on était des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puis maintenant, on est sauvés par sa justice, par sa vie, et on est réconciliés avec Dieu, qui nous évite de voir la colère que Dieu réserve à ceux qui ont péché, mais plutôt d'avoir la vie éternelle. Et là, cette semaine, je suis très conscient, avec la doctrine du péché, là, c'est pas beau, hein? C'est pas le fun de parler de ça. Mais je pense qu'en comprenant la gravité du péché, ça peut nous encourager à nous tourner, justement, continuer de nous tourner vers Christ pour être délivrés de jour en jour de la tentation, puis de nos épreuves, puis des tentations qu'on vit, qu'on se tourne vers lui pour être « Seigneur, je veux pas goûter à ça. Ça a coûté ta vie. Maintenant, je veux me tourner vers toi, puis je veux croire en toi, puis je veux persévérer avec toi pour vivre pour ta gloire, parce que c'est ça ton plan pour nos vies. » Et la semaine prochaine, je vous le dis, on va avoir une petite pause parce que c'est dimanche de Pâques la semaine prochaine. Mais dans deux semaines, notre frère Basile va commencer à parler de comment Dieu a amené le salut dans le monde à travers la personne de Jésus-Christ. Et on va voir ensemble dans deux semaines Jésus qui est venu dans le monde pour venir nous délivrer. Mais avant ça, on va se courber et on va demander à Dieu sa grâce pour nous. Seigneur, merci pour ta parole. Certainement, lorsqu'on considère ce que ta parole dit sur le péché, il n'y a rien de beau là-dedans. C'est vraiment pas encourageant de lire ça. Mais ce qui m'encourage, Seigneur, c'est qu'un jour, tu as voulu venir nous délivrer de cet état de pécheur dans lequel nous étions. Seigneur, tu as décidé dans ton amour de nous faire grâce. Alors qu'on était tes ennemis, incapables de faire le bien, incapable de t'aimer. Seigneur, tu es venu nous délivrer du péché parce que Jésus-Christ a vécu une vie sans péché pour nous et a reçu sur lui, à la croix, la condamnation qu'on méritait pour nos péchés. Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. Merci parce qu'un jour, par ton esprit, tu m'as ouvert les yeux. Tu as ouvert mon intelligence pour que je puisse arrêter de voir ton salut comme une folie, mais que je puisse le saisir par la foi. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a maintenant de t'appartenir, du privilège et de cette espérance qu'on a qu'un jour on va être avec toi pour l'éternité, entièrement délivré des effets du péché et à vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, j'ai hâte à ce jour-là. De jour en jour, à travers les épreuves, Seigneur, j'ai juste hâte d'être avec toi. En attendant, Seigneur, aide-moi à vivre pour toi, à vivre pour ta gloire, à annoncer ce salut merveilleux autour de moi, puis que d'autres puissent entendre et venir à toi et être délivrés, Seigneur, de la colère à venir et avoir la vie éternelle. Viens nous bénir, Seigneur, ensemble à travers la célébration et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.